RFI. Le groupe Azalai Hotels, leader régional de l'hôtellerie en Afrique de l'Ouest, vous propose 8 milliards de voisins.
8 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour et bienvenue les voisins, les voisines, les 8 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, comment promouvoir la pratique du sport féminin ? Amateur et professionnel, sport du dimanche, sport de compétition, partout, les femmes sont moins nombreuses que les hommes. Sauf pour ces Jeux de Paris 2024. Alors derrière cette vitrine de parité, quelles sont les réalités ? Dans les familles, dans les offres d'infrastructures, des villes, des quartiers, dans les mentalités des clubs aussi, quelles solutions ? Vous pouvez évidemment poster vos messages et vos réactions, les voisins et les voisines, au 33 7 64 45 51 41. On va discuter de la place des femmes dans le sport, de haut niveau et amateur, avec Catherine Louveau. Bonjour Catherine Louveau.
Bonjour.
Vous êtes en direct avec nous, vous êtes sociologue du sport à l'Université de Paris-Sud. Vous travaillez en particulier sur l'accès des femmes aux pratiques sportives. Ensuite, ce sera le sport du futur, ou plutôt le futur du sport, la chronique de Tom Malky. Après, les stades, les salles de sport, comment vont travailler les journalistes sportifs du futur. Bonjour Tom.
Bonjour Emmanuel.
Alors, est-ce qu'ils auront du travail ?
A priori, oui, mais on va voir.
Enfin, mon premier stade à la fin de l'émission, le sport expliqué aux enfants par Juliette Brault. Gros plan sur la discipline olympique phare, l'athlétisme, avec une question sur le relais.
8 milliards de voisins et de voisines.
Les pays les plus éloignés aujourd'hui, on sait tout ce qui se passe au bout du monde.
8 milliards de voisins et la planète se parle.
Et tout de suite, les JO des auditeurs et leurs souvenirs les plus forts. Bonjour Delphine Cachin.
Bonjour Emmanuel.
Vous avez reçu un message de Bangui en République centrafricaine.
Oui, il s'agit de Léo. Alors Léo, faut l'imaginer assis devant sa télé comme un fou, en train d'attendre son héros Teddy Riner. C'est la finale de l'épreuve de judo par équipe mixte des JO de Tokyo 2021. Ce dernier combat rapporte une nouvelle médaille d'or à la France, mais elle coûtera cher à Léo.
Bonjour, je m'appelle Léo Papi-Bénam, je viens de la République centrafricaine. Pendant les JO 2020, je suivais avec beaucoup d'attention la délégation française. Celui que je suivais le plus, c'était Teddy Riner. Il devait combattre un après-midi et moi j'ai écourté les cours pour venir à la maison regarder. Pendant ce temps, on nous interdisait à la maison de regarder la télévision dans la journée, en plus dans la semaine. Moi j'ai enfreint à cette règle, je suis rentré à 14h ou environ 15h pour regarder son dernier combat, celui qui lui permettait de remporter la médaille d'or.
Well, we now have the 10-time world champion, the 2-time Olympic champion, Teddy Riner en France in blue.
Elle poussait avec cette jambe-là quand on le voit
clencher. C'est bon.
Oui.
Et ça va passer.
Oui. Bienvenue,
monsieur. La France est championne olympique. La France est championne olympique par équipe ici au Japon. C'est un exploit monumental.
Regardez le combat. C'est courant en Afrique, le courant part, l'électricité part. Et les parents, quand ils revenaient à la maison dans la soirée, ils découvrent que quelqu'un a regardé les sports dans la journée. Et après, on m'a réprimandé, on a privé mon goûter, on a privé tout ce que j'avais comme droit sur la télévision et tout pendant une semaine. Mais j'étais content à la fin parce que ça m'a permis de suivre l'une des références de ma personnalité en France.
Léo, médaille d'or de désobéissance pour la bonne cause.
Oui, et toujours assis devant sa télé en 2024, à suivre Teddy Riner. Il est diplômé de l'école de journalisme de Lille et c'est grâce à Teddy. Il travaille pour Radio Ndeke Luka et c'est encore Teddy qui lui transmet force et courage pour atteindre ses objectifs.
Merci pour le message Léo, merci Delphine Cachin. À demain pour un autre JO des auditeurs.
8 milliards de voisins.
Ça m'a appris la fraternité, découvrir d'autres cultures.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins.
Et entre nous, là, entre les voisins.
Hein? Ouais, c'est ça.
En ouvrant grand ces Jeux, vous donnez vie aux réformes de notre agenda olympique. Nous allons tous ensemble vivre de Jeux olympiques plus inclusifs, plus urbains, plus jeune, plus durable. Les premiers Jeux olympiques avec une parité totale femmes-hommes sur l'aire de compétition.
Thomas Bach, le président du Comité international olympique, lors de la cérémonie d'ouverture. Catherine Louveau, en tant que sociologue du sport, quel bilan vous faites de cette quasi-parité? Je rappelle qu'on est à 49,1% des femmes, de femmes athlètes, hein, donc quasiment un athlète sur deux est une femme.
Vous avez utilisé le terme de vitrine de parité. Le terme vitrine me paraît tout à fait pertinent. C'est annoncé comme un grand progrès. On n'a parlé que de ça. Le problème, c'est qu'on l'a fait suivre très vite le terme de parité, c'est-à-dire autant de femmes que d'hommes, très vite d'autres termes suivis, par exemple, du terme d'égalité. Et là, et de mixité d'ailleurs, et donc ça crée de la confusion. La parité, mais dans le monde du travail aussi, on est paritaire, il y a autant de femmes que d'hommes qui travaillent, sauf qu'il y a des ouvriers, des cadres supérieurs, et bien dans le monde du sport, il n'y a pas d'égalité, voilà, et puis, donc ça crée de la confusion. La parité, le fait qu'il y ait autant d'hommes que de femmes, l'institution n'y est pour rien, à part éventuellement avoir choisi quelques sports dans lesquels il y aurait peut-être plus de femmes, c'est tout. Mais en fait, l'égalité n'est absolument pas réelle. On pourrait prendre l'exemple de la médiatisation du sport, hein, toute l'année. 5% du temps du sport sur toutes les chaînes télévisées, on voit des femmes. 5% du temps. 21% du temps ensuite, ce sont des sports dits mixtes. Alors là, il faut discuter de ce qu'on appelle la mixité aux Jeux Olympiques. Et puis, parce que c'est clair, ce n'est pas de la vraie mixité. Il n'y a qu'un sport qui est mixte, c'est l'équitation. Et ensuite, donc il y a de la confusion qui est créée quoi, sur la question de l'égalité. Et donc, la parité ne fait pas... Et alors, sur la télévision, donc les retransmissions, 72% du temps, on voit des hommes. Voilà. Donc le reste du temps mixte, 5% du temps annuel dans les médias, ce sont les femmes sportives en France. 5%. Voilà, j'insiste bien parce que la question de la parité, elle n'a rien à voir avec l'égalité.
Ouais. Et souvent, dans les fédérations, est-ce qu'on a réellement des chiffres sur la place des femmes dans les pratiques sportives, amateurs ou pro?
Mais bien entendu, on a des pourcentages très clairs. Le problème, c'est qu'on a des chiffres. Le problème, c'est que les enquêtes qui sont faites, comme celle de l'INJEP, l'Institut de la Jeunesse, du ministère des Sports, le CREDOC, enfin tous les organismes, la majorité des données ne sont pas sexuées.
Donc, le chiffre de 2023, hein, où les clubs comptent seulement 38% de licenciés féminins.
Oui, ce chiffre de 38%, je le connais depuis plusieurs décennies. J'ai bien dit des décennies, d'accord? Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. 38% des licenciés sont des femmes, mais si on prend par exemple les 15-29 ans, c'est-à-dire les jeunes, toujours dans les chiffres, il y a 26% de licenciés dans cette tranche d'âge, mais 33% des hommes de cette tranche d'âge ont une licence et seulement 19% des femmes. Donc les femmes sont beaucoup moins dans les pratiques en club, encadrées, structurées, a fortiori quand il s'agit de faire de la compétition. Alors il faudrait encore...
Ça veut dire que si les filles sont moins licenciées dans des clubs que les garçons et moins dans les compétitions, le sport de haut niveau se prive de talent. C'est-à-dire qu'il faut élargir l'assiette, donc il faut faire venir plus de filles.
Eh bien, elles sont 39% des sportifs classés haut niveau. 39%, je rappelle que la parité, c'est 50-50.
Voilà. Avec cette exception de l'équitation quand même, hein, c'est le seul truc dont on pourrait vous dire que bah là, c'est l'inverse. Hein, immense majorité de filles dans les clubs.
Justement, l'équitation est le seul sport réellement mixte, c'est-à-dire où les hommes et les femmes concourent les uns contre les autres. Tout le reste, comme le judo par exemple, qu'on a dit mixte ou d'autres, etc., on fait concourir d'une part les filles, d'autre part les hommes entre eux. Les filles avec les filles, les hommes avec les hommes. Donc la mixité, c'est parce qu'on a à la fois, on décompte les victoires des unes et des uns ensemble. Mais en fait, ce n'est pas de la réelle mixité. La réelle mixité, donc concourir dans la même catégorie les uns contre les autres, il n'y a toujours que l'équitation qui le pratique.
Oui, mais bah on est bien d'accord, mais parce que l'effort musculaire, il est pratiqué par le cheval. C'est ce qu'on pourra vous répondre quand même.
Oui, ça nous a été dit déjà depuis 40 ans que je fais de la sociologie du sport. On nous avait déjà dit le seul sportif, c'est le cheval, c'est pas le cavalier.
En tout cas, ce que je retiens de ce que vous dites, c'est qu'il faut comptabiliser plus pour arriver à plus d'égalité.
Mais il faut regarder les faits. Oui, il faut regarder les faits et cesser de se réjouir de principes très très généraux. C'est formidable, c'est la parité, c'est l'égalité. Non, c'est pas l'égalité. On pourrait prendre l'encadrement, on peut prendre tout ce
justement,
qu'on veut.
Justement, on va en parler, hein, de l'encadrement, oui, de ce qui se passe dans les familles, dans les clubs, oui, les mentalités, le rapport stéréotypé, voilà, aussi des femmes au sport. Est-ce que c'est différent dans d'autres pays? Vous restez avec nous, hein, surtout Christine Louveau. On se retrouve juste après, pardon, Catherine Louveau. On se retrouve juste après l'artiste ivoirienne Ayane, que vous retrouvez aussi, les voisins, les voisines, en playlist sur RFI Musique.
Tout le monde à gauche, prends la gauche, arrakata, prends la gauche. Tout le monde à droite, prends la droite, arrakata, prends la droite. Nous on veut s'amuser. Regardez vos conseils. Quand on est là, ça panique. Ton roulement me fatigue. On enchaîne les tubes, c'est chimique. Bia Kamou, dans la nuit, tous les chats sont gris. Viens à moi, oui. Paye à fond, faut pas fuir. On dit, tu ne vises pas, tu manges pas. Donc, tu as fait comme. Si le barré ne vient pas, on fait comme. Ta peau est fâchée, elle donne pas. Donc, tu as fait comme. Ta badjaille bouge pas. Tout ça, c'est comme. Tout le monde à gauche. On dit qu'il a ça, mais est-ce qu'il t'a donné? Le payeur est doux, mais qui va payer ton loyer? Demande à Nabil, Balo, Iji, Bachili. Toi là, tu as bois beaucoup là. Tu as misé? Tu me vises pas, tu manges pas. Donc tu as fait comme. Si le barré ne vient pas, tu en fais comme. Ta go est fâchée, elle donne pas. Donc tu as fait comme. Ta badjaille bouge pas. Tu ça c'est comme. Tout le monde à gauche.
RFI, nous sommes en direct du Club France à Paris 2024, 8 milliards de voisins, le Club France qui commence à s'animer en cette fin de matinée. Beaucoup d'animation, beaucoup de sportifs aussi que l'on peut rencontrer. C'est vraiment le lieu qui célèbre le sport, évidemment à la française aussi. Nous sommes avec Catherine Louveau, sociologue du sport. Avec vous Catherine, on essaye de comprendre pourquoi il y a en France, dans un pays comme la France, 38% de femmes licenciées. Donc on est effectivement, vous le disiez, nous ne sommes pas à parité, et quand bien même il y a parité pour ces JO de Paris 2024, la parité ce n'est pas l'égalité. Le rapport un peu stéréotypé des femmes, vous nous parliez d'équitation qui est le sport mixte par excellence, mais le foot, évidemment, on a une majorité écrasante de garçons dans les clubs. Ce rapport stéréotypé des femmes au sport, est-ce que c'est différent dans d'autres pays? Je pense par exemple aux États-Unis.
Ah bah si on pourrait prendre quelques exemples, l'exemple du football par exemple, où en 2019 les Américaines qui avaient gagné avaient posé quasiment plainte contre les instances pour toucher les mêmes primes, quoi. Ce qu'avait fait en son temps Billie Jean King dans les années 70.
Mais le soccer américain qui est très très populaire, l'équipe
tout
féminine.
Tout à fait. Tout à fait. Et on voit bien qu'en France, il a fallu attendre 2019 pour que les mondiaux de football des filles passent en prime time quand même. Hein, bon. Et ensuite, ça n'a pas donné, parce que les discours que j'entends beaucoup ces temps-ci aussi, c'est inspirationnel, j'ai entendu, pour les petites filles, de voir les femmes dans des pratiques peu habituelles. Ce sont des accélérateurs pour la performance, ce sont des déclencheurs, ça va amener des jeunes dans les clubs, etc. Bah, malheureusement, par exemple, si on prend le football, suite en 2019, où beaucoup de journalistes aussi disait ça y est, c'est l'engouement, c'est fait. Il y a l'impression que l'égalité est atteinte puisqu'on en parle.
Oui, non, en fait, ça ne suit pas dans les clubs au moment des inscriptions.
Alors, en 2019, 7% de filles à la Fédé et maintenant 8%. Voilà.
D'accord. Donc, on n'a pas beaucoup avancé. Mais alors, quand leurs frères font du sport, les filles, elles font quoi pendant ce temps? Si on revient au niveau des familles, là, au niveau de l'enfance et de l'adolescence.
Alors, bah déjà, quand elles font du sport, les petites filles, c'est encore gym et danse, hein, c'est-à-dire de l'esthétique à l'intérieur, etc. Donc là-dessus, il y a des socialisations, des modèles qui durent sur le fait qu'aux garçons, le football et le judo, quand on prend la prime enfance à partir de 5, 6 ans, 7 ans, etc. Voilà, et aux filles, la danse, l'esthétique, voilà, faire jolie, être mignonne. Et d'ailleurs, quand on sur beaucoup de commentaires par rapport à la gymnastique féminine, on entend bien que... voilà, on n'est pas sur la question de la performance, du muscle, etc. On est encore sur la question de l'esthétisation. Pendant que les garçons, alors à l'adolescence, les garçons font du sport, ben parce que justement, c'est un atout dans la construction de la virilité. L'adolescence, c'est quand même devenir un homme, devenir une femme, ce qui est très compliqué pour les adolescents, très la féminité, la virilité, la séduction, etc. Et pendant que les garçons font du sport, les filles très souvent abandonnent le sport, en particulier en club. Et qu'est-ce qu'elles font d'autre?
Eh bien, elles font leurs devoirs. J'ai envie de vous répondre, Catherine Louveau. Pendant que les garçons font du judo et du foot, elles font leurs devoirs. Non, mais je veux dire leurs devoirs pour l'école. Elles se mettent une grosse pression scolaire. Elles obtiennent de meilleurs résultats scolaires. Elles sont plus diplômées que les hommes en France parce que on s'en sort par l'école quand on est une fille aussi beaucoup.
Oui, enfin, à diplôme égal, après, dans l'emploi, ça marchera pas. Elles resteront totalement inférieures. Mais par l'école, pas n'importe laquelle aussi. Quand on entend encore actuellement parler des maths, il se passe dans les maths ce qu'on observe aussi dans le sport. C'est-à-dire, pourquoi, alors qu'il n'y a pas de boss des maths, que ça n'existe pas, pourquoi y a-t-il encore beaucoup plus de garçons dans les filières mathématiques, rien qu'en terminale, que de filles? Parce que on est la construction des représentations, c'est quelque chose qui fonctionne dès la prime enfance. Et vous parliez de la famille tout à l'heure, mais quand les parents font du sport, d'abord, ça varie selon les milieux sociaux, il y a beaucoup plus de familles, d'individus et de parents qui font du sport, qui ont des diplômes d'enseignement supérieur, alors que ceux qui n'ont aucun diplôme, on a des écarts de quasi 20%, hein. Donc très important, dans les familles, chez les ouvriers, par exemple, oui, c'est 20% d'écart entre les cadres et le taux de pratique chez les ouvriers. Quand le père et la mère font du sport, les garçons et les filles ont autant de probabilités très élevées de faire du sport. Sinon, là aussi, presque 20% de moins pourcentage, 20% en moins pour les garçons et filles.
Et quand elles font du sport, en tout cas à l'âge adulte, les femmes se mettent au sport davantage pour des questions de bien-être et de santé, hein, notamment, par exemple, perdre du poids, avoir un joli corps, alors que les hommes vont avoir une vision plus compétitive.
Eh bien, écoutez, voilà, ce sont les modèles et les représentations de qu'est-ce qu'une vraie fille, qu'est-ce qu'un vrai garçon, qu'est-ce que la féminité, etc., etc.
Oui. Alors, bah justement, puisque vous citez ça,
de faire incorporer aux enfants, quoi.
Justement, ces modèles de représentation, on va revenir à l'école primaire, à la cour de récréation. Oui. À l'école primaire, la pression scolaire n'est pas folle. Les filles donc sont dans les cours de récréation comme les garçons. Oui. Et là, que se passe-t-il? Je vous propose, Catherine Louveau, d'écouter un extrait de notre série Le Monde des enfants par Charlie Dupiot, qui a été diffusé vendredi dernier dans notre émission sur l'égalité entre les filles et les garçons en sport.
Des fois, les garçons, ils ont plus de privilèges que les filles. Moi, je fais de la boxe. Et souvent, la boxe, c'est représentée par les garçons, la bagarre, etc. Et ma famille, ils étaient choqués. Ils pensaient pas que je pouvais faire de la boxe. Ils s'attendaient plus à, par exemple, de la gym ou des choses comme ça, et pas de la boxe. Ça, c'est le cliché. Mais les filles aussi, elles peuvent faire de la boxe et être fortes aussi.
Moi, je pense que ça dépend du sport. Par exemple, un sport comme la danse, il va avoir plus de filles que des garçons. En fait, ça dépend du sport.
Moi aussi, je fais de la danse et il y a des préjugés qui disent que les garçons ne peuvent pas faire de la danse parce que c'est pour les filles, mais ça n'a rien à voir. Les garçons peuvent autant faire de la danse que les filles, comme le foot. Les filles peuvent autant en faire que les garçons. Des fois, il y a des garçons, on va faire du football, et par exemple, si la fille elle va rater un but, et ben, les garçons ils vont souvent trouver un petit truc pour lui dire « Oui, pourquoi t'as raté ?» Et moi, je trouve que ça se fait pas.
Par exemple, je jouais au foot des fois dans la cour avec les garçons. Et dès que, par exemple, ils ne me faisaient pas assez, que j'arrivais pas, bah, c'était tout le temps moi, je suis nulle ou des trucs comme ça. Mais quand c'était eux, dès qu'on leur disait quelque chose, bah, ils le prenaient mal et ils s'énervaient. Alors qu'ils le faisaient souvent à moi.
Quand j'étais petit, mais maintenant, je pense plus de la même chose. En fait, quand je jouais au foot avec des joueurs qui avaient des filles, je pensais que les filles étaient inférieures aux garçons. Du coup, bah, je jouais pas avec eux et tout, je leur faisais pas de passe, mais maintenant, bah, je sais que c'est pareil, on est tous égaux. Moi, j'ai rien contre les filles. Hein.
S'il y a des filles qui veulent jouer, bah, des fois, on les intègre. Hein.
En cours de sport, ils ont pas vraiment le choix, parce que bah, le prof de sport, il nous dit de... Il mélange des équipes mixtes, donc du coup, bah, ils ont pas le choix de nous accepter. Ils disent rien, mais au fond d'eux, des fois, ils acceptent pas. Ils ont envie de jouer entre garçons.
Oui, moi, ça m'est déjà arrivé de faire ça. Bah, de dire aux filles qu'elles étaient nulles. Plusieurs fois même. Parce que je croyais qu'elles étaient inférieures.
Je ne suis pas d'accord parce que tout le monde est passé par là en jouant à n'importe quel sport. Tout le monde est passé par débutant. Même par exemple, Cristiano Ronaldo, quand il a commencé, il était débutant. Tout s'apprend.
Tout s'apprend, en effet. Édifiant tout de même ces témoignages d'enfants, Catherine Louveau.
Ah, c'est magnifique et que de bon sens dans les paroles que j'entends chez beaucoup de filles, etc. Elles peuvent le faire. Mais dans les années 20, contre de Coubertin, elles ont été obligées aussi de prouver qu'elles étaient capables, avec Alice Milia et les jeux féminins, etc., qu'elles étaient capables de courir, qu'elles étaient capables de lancer, sauter, etc., etc. Voilà, où on pensait que c'était pas possible. Très souvent, les parents freinent les petites filles. Quand elles disent, une petite fille qui dit, je voudrais faire de la lutte, tu vas faire un truc de garçon, etc. Et à un garçon, il va s'entendre dire, surtout par l'entourage masculin, les copains, etc., etc. Ils le disent pas gentiment. Hein. Ils disent, mais c'est un truc de PD. Tu vas pas faire un truc de PD. Alors, je fais remarquer quand même qu'aux Jeux Olympiques, il y a deux sports qui restent sans hommes, que féminisés. La gymnastique, la natation synchronisée, oui. Et la GR. Eh bien oui, c'est-à-dire là où on est dans un travail d'esthétisation des corps. Donc on voit bien, hein, c'est le fameux film Billy Elliot, eh ben, il n'a pas pris une ride parce qu'on continue de penser qu'un garçon, il ne doit pas être dans l'esthétique, la mise en esthétisation de son corps, etc., etc. Donc dans les cours de récréation, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, il y a les garçons occupent tout l'espace, ça fait 40 ans qu'on sait ça. Ils occupent tout l'espace, les filles, elles sont contre les murs, sur les côtés, etc. Mais il y a des expériences actuellement et qu'il faudrait mettre en œuvre partout, qui sont des actions volontaristes où on oblige les garçons et les filles à jouer ensemble. Quand les garçons disent « oui, les filles, elles sont nulles, en foot, on n'en veut pas », eh bien là, on dit « vous jouez tous ensemble au foot ». Et les endroits où ça s'est mis en place, puisqu'il y a des écoles où tout ça fonctionne, à titre d'essai, bien évidemment, mais moi, je suis pour que ça devrait se généraliser, à obliger les garçons et les filles à jouer, les garçons finissent par se rendre compte que elles sont pas si nulles, et puis que finalement, elles y arrivent, et puis que... Voilà, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon de faire que d'obliger, c'est-à-dire ce que j'appelle des
volontaristes. Ça veut dire généraliser la mixité des cours de sport à l'école primaire.
Mais la mixité
secondaire.
Oui, mais une mixité
jusque dans la cour de récréation. Jusque dans la cour de récréation, c'est ça,
oui,
en fait.
Oui, et une mixité pensée, parce qu'on sait que quand les garçons et les filles peuvent jouer ensemble, et j'ai vu encore un match il n'y a pas très longtemps avec des filles comme ça, elles regardaient passer les ballons pendant que les garçons jouaient le ballon, vous voyez ? Et elles se mettaient en arrière, elles n'osent pas. La question des filles reste malheureusement toujours la même, la confiance en soi, penser qu'on est capable. Il y a des gamines qui l'ont dit là, dans le monde des enfants, ce qu'on a entendu, et c'est très important. Mais déjà, pour commencer, les parents, les modèles qui leur sont donnés, la possibilité qui leur sont donnée, que tout le monde pense qu'elles peuvent le faire. Et donc, on a beaucoup de preuves, là, aux Jeux Olympiques, avec les femmes au tir, les femmes au triathlon, des sports qu'on ne voit jamais le reste du temps.
Reste à savoir comment faire venir ensuite les filles dans les clubs, dans les fédérations, pour pratiquer ces sports en amateur, hein, aussi, dans leur vie de tous les jours. Ça changerait aussi beaucoup de choses. Voilà. Vous restez avec nous, Catherine Louveau. Oui. On va justement en discuter de ces solutions qui passent aussi par des politiques publiques.
Écoute pas les termes aujourd'hui.
D'accord.
Ce que j'ai dit là, c'est important que...
8 milliards de voisins, on est ensemble.
8 milliards de voisins, c'est maintenant.
Quelle solution pour avoir plus de femmes dans le sport amateur, dans le sport de haut niveau? On en discute avec vous, Catherine Louveau. Et j'avais donné le compte WhatsApp pour les voisins, les voisines au début de l'émission, 33 7 64 45 51 41. Écoutez le message de cet auditeur, Taylor Agoma, en RDC, ses propositions.
Moi, je pense que pour promouvoir les sports chez les féminins, pour que ça égale aux garçons, il faudrait aussi que les fédérations mettent beaucoup plus d'argent ou encore l'argent qu'ils mettront soit à peu près égal à ce qu'ils mettent pour les garçons. S'ils faisaient cela, je pense que ça encouragera beaucoup de femmes à s'intéresser au sport.
Merci Taylor pour le message. Message de David aussi à Lomé au Togo. Il faut promouvoir le sport des filles en créant des écoles de foot, des centres d'entraînement uniquement féminins, mettre en place une discrimination positive en récompensant les filles plus que les garçons et en motivant les entraîneurs financièrement. Ça rappelle d'ailleurs un peu la démarche dans certains pays d'Afrique de certains directeurs d'école pour promouvoir la scolarisation des filles qui disent aux familles bah, « je prends ton fils à l'école, mais avec sa sœur ou rien ». Peut-être pour revenir sur le financement des fédérations, Catherine Louveau, que vous inspire là cette série de propositions d'auditeurs? En France, on sait qu'il y a un sous-investissement dans le sport féminin.
Oui, un sous-investissement ou une sous-considération, c'est-à-dire que la question, c'est pas tellement celle de l'argent, mais il faut qu'effectivement ça soit pensé dans les politiques publiques. Le fait qu'il y a des garçons et des filles, quand on construit des espaces dans des villes, etc., il faut imaginer que si on construit que des espaces de foot, on n'aura que des garçons. Et donc des terrains de foot. Si on construit que des terrains de basket, de streetball, on n'aura que des garçons. Et c'est ce qui se passe dans les espaces publics, les espaces sportifs, hein, les stades, les city-stades, etc. Les filles n'y vont pas. Donc il faudrait organiser des activités où on les y met. Donc ce n'est pas tellement une question
mais
d'argent.
Mais en même temps, quand on a des infrastructures publiques en libre accès dans une ville, oui. Pour faire des pompes, pour faire du skate, etc., pourquoi il n'y a que des garçons?
Mais parce que les garçons sont socialisés pour le faire, pour qu'on trouve ça normal, et les filles pas. Quand je dis socialiser, c'est vraiment dès la prime enfance, dans la famille, et après, ça va être, bon, c'est les cultures, les modèles qui sont... Alors, les modèles, c'est par exemple la médiatisation, c'est-à-dire que quand, je disais tout à l'heure, 5% du temps de sport médiatisé sur une année, hein, toutes les télévisions comprises, retransmissions comprises, donc, où sont les filles modèles, en fait, hein? Alors là, évidemment, on a des exceptions. Mais donc, justement, il ne faut pas raisonner par les exceptions.
Le sport féminin fait moins d'audience sur les chaînes. Hein, il faut quand même le rappeler. Donc, moins de, ça rapporte moins en termes d'écran pub.
Mais tout à fait. Et dans 80% des cas, ce sont des hommes qui suivent l'actualité, les jeux vidéo sportifs, les vidéos de sport, etc. Ouais. Le sport comme expérience culturelle, on a des chiffres. Dans 80%, ce sont des hommes. Internet, TV, radio, etc.
Ce qu'on voit au JO et dans le sport de haut niveau, c'est que dans les métiers du sport, les métiers des entraînements, des entraîneurs, bah on a surtout beaucoup d'hommes, qui, y compris qui entraînent des femmes.
Ah oui, alors là, on est en dessous de... Oh ben c'est pas y compris, c'est depuis toujours que ce sont des hommes qui ont encadré des femmes. L'exception intéressante, c'est quand ce sont des femmes... Par exemple, il encadre des hommes. On en avait beaucoup parlé pour une entraîneuse d'une équipe de football sur le fait qu'elle était une pionnière, etc. Au Qatar, sur les arbitres, les femmes arbitres, il y avait trois femmes sur le football, le mondial de football, trois femmes pour 115 ou 120 arbitres. Bon, voilà. Là, on était au plan mondial. Hein. Bon, donc effectivement, quand on prend les présidentes de fédérations olympiques, il y a trois femmes. Présidente de fédération sur 36 fédérations olympiques. Je vous laisse faire le pourcentage. Donc, 80% des cadres techniques, entraîneurs nationaux, directeurs techniques nationaux, etc., sont des hommes. Tous les diplômes sportifs, 72%, les trois quarts délivrés par le ministère des Sports, sont des hommes. Voilà, enfin, les chiffres, je les ai tous.
Le sport est dirigé par des hommes. Hein. Voilà, ça, c'est ce qu'on doit retenir
dirigé,
de tous ces chiffres.
Encadré, oui, absolument. Mmh. Absolument. Et donc, c'est quand même... Et tout commence dans la prime enfance, encore une fois. Et dans les clubs, bah, par exemple, même quand les équipes de filles sont meilleures, parce que j'entends qu'on parle beaucoup de football quand on pose des questions, mais bon, il n'y a pas que le football, heureusement, pour les filles. Donc, dans les clubs, les terrains sont donnés de manière privilégiée aux garçons, même si les équipes de filles sont meilleures. Donc, il y a quand même de très fortes inégalités sur les moyens qui sont donnés aux équipes de filles par rapport aux équipes de garçons.
Alors, évidemment, il y aura toujours... Catherine Nouveau, pardon, il nous reste quelques minutes et je voudrais quand même qu'on aborde aussi quelques polémiques qu'on a eues pendant ces Jeux. Polémiques sur les tenues des athlètes, hein. Au-delà des Jeux, où en sont les inégalités entre les tenues vestimentaires des femmes et des hommes et pourquoi on en est encore là d'ailleurs, hein. Vous parliez de l'esthétisation des corps en gymnastique. Simone Biles avait soutenu des athlètes allemandes qui souhaitaient porter des tenues...
La combinaison.
La fameuse combinaison, mais elle-même, elle est toujours en juste au corps, pailletée, etc. Il n'y a pas de règles formellement imposées par la Fédération internationale d'athlétisme, mais la culotte, la brassière reste la norme. Sinon, les athlètes ont peur d'une certaine sanction médiatique aussi, une sanction des sponsors.
Ça a été le cas. De sanctions financières? Ah ben oui, sur différents mondiaux, bien sûr. Aux Jeux Olympiques, là, je ne sais pas, je n'ai pas entendu de polémique particulière.
Mais c'est un épiphénomène, cette polémique sur les tenues, c'est un épiphénomène ou pas? C'est comme le fait de filmer les femmes, hein, quand vous parliez aussi de l'esthétisation des corps, la façon de montrer les femmes.
Justement.
Le patron de l'Olympique Broadcast Service, le diffuseur officiel de la compétition, reconnaît une différence de traitement entre les femmes et les hommes. Il dit que les caméramans, qui sont majoritairement des hommes, filment davantage les fesses, les seins, les jambes, davantage que pour les hommes.
Ben, il paraît que pour les Jeux Olympiques, il y a eu une consigne, c'est une journaliste qui m'a dit ça, mais j'en ai jamais entendu parler, il y aurait eu pour ces Jeux une consigne demandant aux caméramans Bouman, je ne sais pas s'il y en a, de ne pas introduire de biais, c'est-à-dire de filmer pareillement les garçons et les filles.
C'est exact, là, mais ça n'est pas simple.
Ah non, mais moi je suis sûre que ce n'est pas respecté, parce que ça fait très très longtemps que ça dure, les beach volleyeuses, etc., etc. Et donc, pourquoi? Parce qu'on est toujours sur la même problématique, c'est-à-dire qu'on est sur la sexualisation des sportives, on leur demande d'être féminines, on leur demande, et donc c'est pour ça qu'on peut observer d'ailleurs qu'en athlétisme, elles sont très maquillées, elles ont des bijoux, des colliers, des bagues, des boucles d'oreilles, etc. Tout, comme s'il fallait se disculper d'être performante et musclée, quoi. Voilà, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Et donc, elles mettent des bijoux qui sont des signes attachés au féminin, des symboles attachés au féminin, et elles-mêmes disent « mais je suis quand même une fille », comme si elles avaient à se justifier. On est toujours sur la même, d'être performante, on est toujours sur la même problématique, en particulier dans la médiatisation. Donc, des femmes qui seraient... Mais elles ne sont encore pas très bien accueillies dans le milieu du rugby. Enfin, moi, je connais pas mal de gens dans le milieu du rugby, mais tu as vu comment elles sont, et elles sont moches, et elles sont si... J'ai dit, mais les premières lignes, elles ont besoin d'être fortes, elles ne peuvent pas ressembler à des danseuses, donc puissantes pour entrer en mêlée.
Et d'ailleurs, depuis quelques années, on voit monter les controverses sur le genre. Hein. Ce sont d'ailleurs d'abord les femmes qui en sont victimes. Imane Khelif, la boxeuse algérienne médaillée...
C'est une autre question, ça. Totalement, hein, les trans, tout ça, oui.
Non, oui, c'est pas le cas de la boxeuse algérienne. Hein. Elle est soupçonnée sur les réseaux sociaux d'être un homme. En fait, elle a simplement un taux de testostérone supérieur à la moyenne des femmes. Donc
c'était le cas de Casper Semenya, le cas historique. Mais oui, mais c'est naturel. Donc à partir du moment où c'est naturel, je vois pas pourquoi on la pénaliserait. D'ailleurs, le CIO, je suis pas sûre qu'ils aient mesuré parce qu'ils ont abandonné en tout cas, ils ont laissé ça aux fédérations internationales, le CIO.
Le CIO se base sur le passeport, hein, en fait. Globalement, ceci dit, une femme comme Imane Khelif, elle n'a pas été tellement défendue par les organisations féministes.
Mais les féministes, à part la Ligue du droit international des femmes, alors là, on a fait beaucoup de choses, parce que j'en fais partie, par ailleurs. Les féministes ne s'intéresse pas au sport, enfin, de manière générale, les féministes.
Pourquoi donc ?
Parce que, comme aurait dit un sociologue célèbre à une époque, c'est un objet social mineur, ou c'est considéré comme tel, ou... Voilà,
et c'est votre objet social d'étude.
Que le monde de la famille, pardon.
Et le sport est votre objet social d'étude et votre passion, Catherine
oui.
Nouveau.
Oui.
On arrive au terme de cette discussion. Évidemment, j'ai envie de vous demander quelles sont les performances de championnes qui vous ont le plus marqué à quelques jours de la fin des Jeux. Vous.
Mais écoutez, quelques-unes particulièrement. Pour la première fois, je voyais les femmes faire du tir, la triathlète. Et puis surtout parce que, les handballeuses, elles sont constantes dans leurs performances.
L'équipe de France féminine de handball. En demi-finale aujourd'hui contre la Suède à 16h30.
Voilà. Merci pour elle.
Et merci à vous, Catherine Louveau. On l'entend, vous êtes une sociologue, mais aussi militante pour plus
oui.
de femmes. Et plus de place
ben oui.
pour les femmes dans le sport,
l'égalité.
Le sport oui. dans la société, le sport dans le haut niveau également. Merci beaucoup.
Parfait.
Vous êtes sociologue du sport à l'Université de Paris-Sud et merci infiniment d'avoir été en direct
chez
8 milliards de voisins. Nous sommes au Club France à Paris 2024. On vous souhaite une très belle journée, Catherine Louveau. À suivre, le futur du sport, la chronique de Tom Malky nous parlera de l'avenir des journalistes et commentateurs sportifs, mais tout de suite ce duo planétaire à la Nigériane, Kiss Daniel et Davido.
Kasha kujo, balama bala. Alhamdulillah, oh mi koda da. Yeah yeah yeah. Ama bewa wako, sarewa kinto. Muti pa usporti, bali zero shorti. Muti muwa na montu, boni kala mura kiriwa. Egi bembe lebe, kuka tu. Twerk your body, twerk your body, twerk give me your back, I see you. Your body looking like tsunami. Explosive Hiroshima, Nagasaki. Let your monkey don't make me miscalculate. Don't make me over the pay. Don't make me the misbehave. With the way them twer, 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 twer. If you don't make a man go. Take it now, pepe, pepe. Egg by me, oh Jesus. They be feeling the boy like Oleku. Asan, dio, wait, dio, 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 dio. Oh, yeah, see the way I body twer, twer.
Vous écoutez RFI, vous avez bien raison. Vous écoutez 8 milliards de voisins en direct du Club France. Le futur du sport maintenant avec vous, Tom Malky. Aujourd'hui, on se demande comment montrer le sport dans le futur, en particulier pour les journalistes sportifs.
Et avec une première observation, notre façon de consommer le sport change, en particulier parce que de nouveaux supports sont à notre disposition. Il y a la réalité augmentée d'abord, qui permet de faire apparaître des éléments virtuels dans le réel. Cette technologie, les journalistes sportifs peuvent jouer avec. Vous pourriez, par exemple, avec un QR code, avoir les règles de chaque épreuve des Jeux Olympiques qui se superposent à côté de votre téléviseur ou de votre smartphone. Ou bien le journaliste pourrait directement apparaître sous la forme d'hologramme, là, dans votre salon, pendant qu'il commente le match en direct.
Ouais, et quel est l'intérêt pour le journaliste d'apparaître dans mon salon ?
Pour la manière dont ils vivent le match, pour nous transmettre plus d'émotions.
Le but de Marquinhos ! Marquinhos qui égalise à la 90e et l'étoile est jeune ! Extraordinaire à la 90e ! Alors que l'Atalanta joue à 10 avec Freuler qui est blessé ! Ils vont jouer la prolongation à 10 à Atalanta ! Incroyable Marquinhos de sauveur ! C'est un baba au Rome ! C'est un baba cool ! C'est un baba l'Ondor ! Ce match nous rend baba, gaga, dada, fada, tata, yo-yo, Annie Cordy !
Bon, c'est drôle, mais c'est pas l'équipe des sports de RFI quand même. Hein.
Non, non, ce que vous venez d'entendre...
Ça manque d'infos, je dirais.
Alors, c'est du commentaire. Ce que vous venez d'entendre, c'est Yoann Rioux et Candice Roland de la chaîne L'Équipe TV. Lorsque la chaîne n'a pas eu les droits de diffusion de plusieurs matchs, elle a mis une caméra devant ses deux commentateurs qui se sont filmés en train de réagir. Et les spectateurs ont adoré. Sur Internet, vous trouverez des milliers d'influenceurs qui réagissent à des matchs, des annonces, des bandes-annonces et tout un tas d'autres choses. Voir la réaction d'un événement, ça donne aussi le sentiment de le partager un peu plus.
Ouais, c'est pour ça qu'on a les stades en principe, hein. C'est pour être tous ensemble.
Alors oui, sauf que la nouvelle génération, elle va de moins en moins au stade. Le rapport Capgemini s'est intéressé entre autres à la façon dont la génération Z, c'est les 18-27 ans, consomme le sport. Et celle-ci préfère à 77% le vivre en dehors des enceintes sportives.
Donc en dehors des stades.
Donc en dehors des stades. Par exemple, elle va plutôt les vivre à travers des plateformes comme celles qu'on a aujourd'hui, YouTube, Twitch. Ces deux plateformes ont la particularité d'être équipées de chat. Car ce que ce jeune public cherche, c'est aussi l'interactivité, paradoxalement. Pouvoir réagir en direct et être entendu. Mais les salles de chat ne sont pas les seuls espaces de discussion qui ont de l'avenir dans les façons de montrer le sport du futur. Il y a aussi les canaux de discussion audio. Récemment, on a vu la création d'applications comme Clubhouse ou Discord qui permet d'écouter les conversations sur diverses thématiques et de donner la parole à n'importe quel participant.
Ouais. Et ça, ce sont des groupes d'échange qui sont très, très populaires chez les jeunes.
Et à tel point que la NBA et la NFL, les fédérations de basketball et de football américain, ont investi ces espaces pour permettre à leurs supporters d'échanger avec eux. Si le futur du sport passe par ces canaux, alors rien n'empêche les commentateurs sportifs eux-mêmes d'ouvrir ces espaces d'échange à leur audience. Cela les différencierait notamment d'un concurrent direct, l'IA, qui est déjà utilisé par certains médias pour écrire des articles et qui est aussi en train d'être testé, tenez-vous bien, pour commenter les matchs en direct.
Ouais, ça, c'est clair que l'IA est capable dans pas longtemps aussi d'échanger du coup dans ces fameux canaux de discussion si populaires chez les jeunes.
Peut-être. Mais si ce qui intéresse le public des sports, c'est de partager des émotions avec d'autres passionnés qui, eux, en plus, peuvent leur apporter une analyse, alors le journalisme sportif a encore de beaux jours devant lui.
Voilà, bon entendeur. Tom Malky, demain, dernière chronique du futur du sport.
Oui, on répond à la grande question. Quel sport va dominer le futur?
Bon, en gros, est-ce qu'en 2050, on sera toujours aussi dingue de foot, hein? Merci beaucoup, Tom. Restez avec nous, les voisins et les voisines. Voici le podcast à écouter en famille pour discuter de sport avec vos enfants. Mon premier stade, le sport expliqué aux enfants de Juliette Brault. Aujourd'hui, une question technique sur la discipline olympique par excellence, l'athlétisme, et une question de Anya sur les passages de relais en équipe. Réponse au sprint de Juliette Brault.
RFI.
Mon premier stade. Le sport expliqué aux enfants.
Prénom Agnès. Taille 1m62. Âge 10 ans. Joueuse de foot dans un club d'Aubervilliers. Spécialité attaquante. Comment les athlètes qui font de la course de relais gardent leur témoin dans la main?
Anya, bienvenue dans mon premier stade. À vos marques. Prêt. Partez. Ça y est, l'épisode est lancé dans une course de folie. Faux départ. Je suis partie trop vite, on va reprendre les bases. En athlétisme, le relais est une course par équipe dans laquelle chacun des quatre relayeurs court successivement en se passant un bâton appelé témoin. C'est la transmission de ce témoin qui déclenche le départ du prochain coureur. Aux Jeux Olympiques, il y a deux types de relais, le 4x 400 mètres et le 4x 100 mètres. Anya, je vois que tu as tout de suite compris à quel point les mains étaient essentielles dans une course de relais. Comme quand tu joues aux jeux vidéo, on sent que la tension est palpable, le stress s'adonne, les mains moites.
Et c'est parti pour le 4x100, cette fois tout le monde est parti.
Au relais, c'est à peu près la même chose. Le passage de témoin est un moment crucial. Et il vaut mieux ne pas se louper car ça va très vite. Par exemple, le record du monde du 4x100 féminin s'établit à 40 secondes 82 centièmes. Oui, on est ultra précis en athlétisme. Côté homme, ça fuse en 36 secondes 84. Ça laisse peu de temps pour la faute de main, tout ça. Alors, comment faire pour garder le témoin solidement dans la main ? Pour te répondre, j'ai d'abord regardé le règlement de la Fédération internationale d'athlétisme. Et les choses sont assez claires, Anya. Les athlètes ne sont pas autorisés à porter des gants ou mettre une matière ou un produit sur leurs mains dans le but d'augmenter l'adhérence avec le témoin. Fermez les guillemets. Pas de poudre possible. On ne peut compter que sur ses mains moites. Mais ne paniquons pas. La matière du témoin, en général en métal, est quand même assez adhérente. Et sa taille, comprise entre 28 et 30 cm, permet aussi de bien le tenir. En suivant quelques règles et méthodes, on peut aussi éviter la glissade. Déjà, une fois qu'on a le fameux bâton dans les mains, bien serrer les doigts. Ça peut être utile. A l'inverse, côté receveur, ouvrir sa main en grand pour mieux l'attraper et éviter de s'emmêler les doigts. Ensuite, il y a deux méthodes bien connues pour la transmission. Le passage français et le passage américain. Je te laisse déduire par qui ils sont utilisés. Le passage français se fait main vers le bas, tandis que chez les Américains, on se passe le témoin main vers le haut. Haut ou bas, le tout, c'est que tout le monde se mette d'accord. Il ne faut pas non plus se tromper de main. Au relais 4x400, par exemple, on court avec le relais dans la main droite et on le reçoit dans la main gauche. De cette façon, on est face à la course.
Et aussi, je voulais savoir si ils font tomber leur témoin, c'est quoi la pénalité qui va leur arriver ?
C'est bien la hantise de tous les relayeurs. Il n'y a pas de pénalité. Mais si le donneur fait tomber le témoin, il va perdre beaucoup de temps, car c'est à lui de le rattraper. Au relais, la transmission doit se faire de main à main. Ça veut dire qu'en cas de chute, le donneur ne peut pas lancer ou faire rouler le témoin vers son coéquipier. Ça serait éliminatoire. Il faut aussi faire attention à la zone de transmission. Elle est souvent délimitée par des pointillés de couleurs. Les coureurs ont 20 mètres pour se passer le témoin. Un passage hors zone et c'est l'élimination.
C'est dense derrière les Américains Norwood qui va bientôt transmettre.
Voilà Anya, avec ces quelques règles en tête, tu devrais pouvoir t'en sortir, même avec les mains moites. Alors, on reprend. À vos marques. Prêt. Partez.
Mon premier stade.
On est dans la même équipe.
On est dans la même équipe.
Passionnant toute cette technique, ces coulisses du sport. Mon premier stade à écouter bien sûr en podcast. Hein. Il y a plus de 10 numéros qui sont déjà podcastables et que vous pouvez écouter, y compris sans connexion Wi-Fi, une fois que c'est téléchargé. Demain, 8 milliards de voisins, dernière émission de notre semaine olympique. Et si demain, on se mettait tous et toutes au sport, je veux dire avec un petit niveau, hein, voire débutant, mais dans ce cas, comment savoir quel sport nous correspond le mieux, définir ses objectifs, savoir si on aime pratiquer seul ou en équipe, en salle ou dehors. Vous allez pouvoir poser toutes vos questions à nos invités. Je vous rappelle notre compte WhatsApp 33 7 64 45 51 41. Ne manquez pas ce dernier rendez-vous sportif entre voisins et voisines. Et à demain avec l'équipe qui gagne, Juliette Bro, Delphine Cachin, Tom Malky, Tiffany Menta, et David Brocouet à la réalisation, à la technique dans quelques instants. Je vais passer le micro à l'équipe olympique sur RFI, bien sûr.
C'était 8 milliards de voisins qui vous a été proposé par le groupe Azalea Hotels, leader